se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Le grand oral des grandes gueules.
C'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitation Agricole, qui est avec nous. Bonjour Madame Lambert.
Bonjour.
On parlait là à l'instant des incendies, des feux de forêt, de ce qui se passe dans le Var, de tous ces massifs naturels. On a entendu parler urbanisation, mais c'est vrai que c'était des massifs avant où passaient les bêtes. Est-ce que les agriculteurs ont un rôle à jouer justement dans l'entretien des forêts pour éviter les incendies, les risques d'incendie?
Les agriculteurs et les sylviculteurs. Mais dans ces espaces qui sont extrêmement secs, on est dans le massif des Maures, on est dans la Provence, on est dans le Languedoc. La végétation, naturellement, est déjà très, très sèche. Cette année, avec la canicule et 2 degrés en plus, ça a été dramatique. Alors, l'entretien, il se faisait par des moutons. Il y a de moins en moins de bergers qui sont dans ces massifs-là. Peu à peu, ça avait été remplacé par des barres coupe-feu avec des vignes ou des espaces cultivés. Malheureusement, pour diverses raisons, soit de rentabilité, soit d'annexion du foncier pour d'autres motifs, oui. Il y a moins ces aspects-là. Mais par contre, sur l'entretien, les chambres d'agriculture avaient eu un travail avec notamment le centre de conservatoire, pour essayer de dire, attention, il y a danger quand même, si ça vient brûler, le déficit d'entretien est problématique. On peut entretenir aujourd'hui mécaniquement, pour quand même nettoyer ces espaces entre les arbres et éviter que ça ne brûle comme ça brûle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des maisons, des caves, des habitations. Bon, il y a des morts aussi. Parlons d'abord des personnes qui sont décédées. Ouais. Vous voyez, 2 morts dans un gîte rural. Et c'est dramatique parce que c'est 4, 5, 10 générations qui ont construit ces maisons et ces caveaux et qui sont aujourd'hui partis en fumée. J'ai vu des photos hier soir sur Twitter de la part d'un collègue agriculteur. Le toit de sa cave est totalement passé à travers. Les tuiles sont sur les barriques de vin. Les bouteilles sont toutes brûlées. Enfin, on voit des choses dramatiques et c'est historique. Il faudra des années certainement pour s'en remettre.
Mais ça veut dire que dans ces massifs forestiers, on doit pouvoir faire une collaboration, pas uniquement de surveillance avec l'Office national des forêts, mais demander aux agriculteurs, aux bergers de reparticiper au débroussaillage, revenir à des choses plus naturelles, quoi.
Auparavant, les bergers le faisaient, avaient une rentabilité parce qu'ils vendaient les agneaux et c'était leur activité. Aujourd'hui, il n'y a pas de rentabilité pour ces activités-là, mais en réalité, elles ont disparu. L'intérêt écologique n'était pas reconnu à l'époque. Aujourd'hui, il est reconnu. Certains disent l'éco-pâturage représenterait une solution. La question, c'est qui paye cet éco-pâturage? Est-ce que ce sont les communes, les collectivités? Qui peut accompagner? La forêt, c'est un bien commun, c'est un bien collectif, c'est un bien à préserver. Ça ne peut pas reposer sur les seules épaules d'agriculteurs, de bergers. Donc je pense qu'au travers de contrats, de prestations pour services environnementaux, que les agriculteurs peuvent rendre, parce que personne d'autre que les moutons peuvent aller à certains endroits, ça peut être une des solutions à préconiser. Mais vous savez, sur l'entretien de ces espaces, les questions qui ne se posaient pas il y a 4-5 ans, quand on n'avait pas ces températures caniculaires à 47 degrés, il faut se les poser aujourd'hui.
Ah mais c'est de votre faute aussi, les températures caniculaires. C'est la faute de l'agriculture. Alors, je regarde, les agriculteurs ont leur part de responsabilité. Rapport du GIEC, leur part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Les pays développés devront réduire de 90% la consommation de viande. 40% de l'agriculture est responsable aujourd'hui des émissions de méthane. Donc c'est l'agriculture intensive aujourd'hui qui a pourri nos sols et qui a fait monter les températures.
Intensive ou pas, parce qu'une vache, qu'elle mange de l'herbe ou qu'elle mange du maïs, elle émet du méthane. Et je dirais même que moins elle produit, plus elle émet, parce que la productivité est aussi une des préconisations du rapport du GIEC que j'ai lu. L'agriculteur, c'est le 3e secteur émetteur. Premier, logement, transport. 3e, agriculture et agroalimentaire. Bon, il faut manger, et si possible, manger tous les jours et 3 fois par jour. Donc, il faudra toujours produire. Comment produire? Aujourd'hui, et les viticulteurs communiquent beaucoup sur ces sujets, nous travaillons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris en élevage d'ailleurs. Parce que le méthane, c'est un méthane entérique. Une vache, vous la changerez jamais. Elle a 3 estomacs, elle rumine, donc elle émet des gaz. Comment on peut réduire ces émissions de gaz? Par son alimentation, par aussi l'augmentation de la productivité. De vaches, une vache au lieu de 2, on émet moins. Donc, toutes ces questions, nous sommes au travail. D'ailleurs, dans l'ouvrage, le livre que je vous ai remis.
Faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. Voilà. C'est notre
orientation politique votée l'année dernière en congrès. Et c'est notre travail pour les 3 ans pour chercher secteur par secteur comment on peut réduire ces émissions. On ne nie pas notre responsabilité, mais on amène aussi des solutions. Par exemple, capter plus de carbone. L'agriculture est à la fois responsable, vous l'avez dit, elle est victime. On moissonne 1 mois plus tôt, on récolte les abricots 3 semaines plus tôt, on a plus de sécheresse, plus d'inondations, mais elle est aussi solution. Et le GIEC le dit, il faut produire plus de biomasse pour capter plus de carbone.
Qu'est-ce que c'est que la biomasse?
C'est toute l'herbe, le végétal, à la fois pour l'alimentation humaine, l'alimentation des animaux, et aussi les énergies, la méthanisation, les biocarburants. Il est demandé aujourd'hui de remplacer le pétrole et les énergies fossiles. Par quoi? Par des énergies renouvelables. On produira avec des modes de production durables, certes, mais l'agriculture est de plus en plus présentée, y compris dans le rapport du GIEC, comme un secteur de solution. Vous savez, le sol ici, l'asphalte dans la rue, capte 0 carbone, alors que mes champs de blé, de maïs, mes prairies, captent du carbone tous les jours.
Étienne Hébig.
Je voudrais savoir, quelle est votre position par rapport à une spécificité un peu française, qui est cette espèce de monoculture qui fait que les... par rapport à l'Italie, par exemple, où quand on va en Italie, les villes sont autonomes à 50 kilomètres autour. En fait, il y a à la fois du raisin, des pêches, des pommes, des poires, etc. Et finalement, la ville vit de son entourage. En France, il y a des endroits où il y a des monocultures, où il va y avoir que du blé, que de la betterave et que de la pomme de terre. Et que si on veut autre chose, il faut automatiquement la faire venir. Au mieux de France, au pire de bien plus loin. Et justement, je voulais savoir si vous avez des propositions pour qu'on retrouve une espèce de régionalisation de l'agriculture et de l'élevage. Et il faudrait aussi de la production, mais ça rend ça. Mais qui permettrait justement de réduire largement les transports.
Alors, pour les très grandes villes, c'est compliqué. Évidemment, pour Paris, c'est plus compliqué que pour
Rennes,
une ville de 5000 habitants. Alors, Rennes y travaille, elle n'est pas autonome à 100%. Et dans la loi d'avenir, nous avons développé le concept de projets alimentaires territoriaux. Aujourd'hui, dans 90% des départements français, il y a ces projets alimentaires territoriaux à l'initiative des villes qui se concertent avec les chambres d'agriculture pour trouver les producteurs en face, les usines pour transformer et essayer d'approvisionner le plus possible en circuits de proximité. Des circuits courts sur des petits volumes ou des gros volumes avec des petits producteurs ou des industriels parce qu'il faut des volumes importants. C'est une priorité aussi des conseils régionaux. On a entendu beaucoup de candidats au régional dire qu'ils voulaient augmenter ce sujet-là. Valérie Pécresse, par exemple, a dit « Je veux du blé francilien pour faire le pain dans toutes les cantines ».
Mais là-dessus, les gens qui sont liés à votre syndicat, ils sont partants parce que ça supposerait un changement de mode de production.
Bon, vous savez, c'est des gens engagés. Et mon syndicat, comme vous dites, nous avons gagné les élections aux chambres d'agriculture. Nous pilotons 95% des chambres d'agriculture. Et ce sont ces chambres d'agriculture qui développent les projets alimentaires territoriaux. Donc on a, par exemple, dans mon département, une convention avec l'Association des maires du Maine-et-Loire, avec le conseil départemental, avec la cantine centrale, pour fournir les aliments, à la fois du lait, des produits laitiers, de la viande, des légumes, beaucoup de légumes, de plus en plus.
Donc vous pouvez y arriver, ça, on peut y arriver. Mais vous pesez pas lourd face à l'industrie agroalimentaire ou face à la restauration collective qui sont les géants.
Non mais soyons sérieux, aujourd'hui, les Français font leurs courses majoritairement dans les grandes surfaces, avec comme premier critère le prix. Deuxième, la qualité. L'origine et troisième, l'impact environnemental. Donc, il y aura toujours de la consommation type grande distribution. Mais il y a de plus en plus de demandes, notamment par les collectivités, les cantines, de produits de proximité. Et nous travaillons, j'étais hier en contact avec le patron de Rungis, qui veut développer un site au nord-est de Paris, et on va travailler pour trouver des agriculteurs qui iront, comme sur le carreau des producteurs à Rungis, amener des produits de la ceinture parisienne, francilienne. La demande de produits locaux, elle est très très forte aujourd'hui. Elle n'existait pas autant il y a 10 ans. Nous, on est réactifs aux demandes du marché.
Donc on peut de nouveau avoir une agriculture locale, française.
Alors, de nouveau, elle existe déjà.
Et réduire l'importation, alors.
Elle existe déjà et on veut l'amplifier. Réduire l'importation, c'est un objectif. On importe 60% de nos fruits. C'est catastrophique en termes d'impact carbone et c'est catastrophique aussi pour les producteurs de fruits.
Mais on apporte aussi du soja, du tourteau de soja pour nourrir les bêtes et ça aussi c'est incroyable. Pourquoi en France, avec les tonnes de maïs que nous avons, on est obligé d'importer du tourteau de soja pour nourrir les bêtes?
Alors, c'est la raison pour laquelle on développe un plan protéines. Et d'ailleurs, le gouvernement en a enfin fait une priorité. Vous avez entendu M. Macron au sommet de Biarritz il y a 2 ans dire, notamment par rapport à l'attitude de Jair Bolsonaro, qui continue à libéraliser la déforestation. Hein. Il réautorise les phytos et il autorise la déforestation pour faire plus de soja. Donc on ne veut pas de ce soja-là, on ne veut pas importer la déforestation. Donc on veut développer des protéines françaises et européennes. Mmh. Ce plan, il est engagé dans le plan de relance. Dans France Relance, il y a un volet protéines. Dans la politique agricole commune, il y a un zoom pour encourager les agriculteurs français et européens à produire plus de protéines. Dans mon exploitation, on n'utilise plus du tout de tourteau de soja.
Vous avez quoi comme exploitation ?
100% tourteau de colza.
Mais pour
on élève des porcs.
Des porcs.
Et il y a 5 ans, nous étions en tourteau de soja 100%. Nous avons basculé complètement et nous utilisons du tourteau qui vient de La Rochelle, qui vient de Saint-Nazaire, qui vient de Normandie, mais qui est fait à partir de colza français.
D'accord.
Donc
d'accord.
C'est possible.
Barbara Lefebvre.
Oui, tout à l'heure, je vous écoutais parler de la question des vaches productrices de CO2 et vous avez donc promu l'idée de vaches plus productives, de vaches plus productives parce qu'il y aurait une demande du consommateur qui fait qu'il n'y a pas le choix que d'avoir des vaches plus productives. Mais vous savez, la responsabilisation individuelle du consommateur, c'est pas uniquement le seul outil. Vous êtes, vous l'avez rappelé, un des principaux partenaires des pouvoirs publics dans l'organisation des politiques agricoles, puisque vous l'avez dit, hein, vous êtes largement... Vous êtes ultra, ultra majoritaire et les autres voix d'autres techniques agricoles se font entendre moins. En revanche, il peut y avoir aussi une activité de votre part et de la part des pouvoirs publics pour faire comprendre aux gens qu'on peut consommer, pas seulement consommer mieux, mais consommer moins. C'est-à-dire que lorsque vous dites on mange 3 fois par jour, oui, mais vous savez, à l'âge adulte, on n'est pas obligé de boire du lait tous les jours et de manger de la viande tous les jours non plus. Et dans ce cas-là, effectivement, les remarques du GIEC sont pas fausses. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut continuer à être dans la surconsommation ? Et je vois en particulier...
Pour produire 500 grammes de bœuf, il faut 7000 litres d'eau.
Voilà. Et je continue à penser qu'on n'a pas besoin de manger du bœuf tous les jours. Je ne parle pas de moi qui suis végétarienne, mais en règle générale, et je n'impose absolument pas d'être végétarien à tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, mais il vaut mieux manger de la viande une fois par semaine, manger de la qualité, et en particulier aussi mieux traiter du coup nos animaux d'élevage. Et je pense notamment que les produits à haute valeur environnementale, ça fait partie un petit peu, excusez-moi de le dire brutalement, de cette arnaque dans laquelle l'agriculture productiviste cherche à nous entraîner, en nous expliquant que voilà, ça allait être une étape vers le bio, mais en réalité, les aliments durables qu'on voit estampillés haute valeur environnementale, qui sont donc estampillés au même titre, considérés comme aliments durables au même titre que le bio, que les labels rouges, que les AOP, en réalité, les intrants sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les engrais, les pesticides de synthèse, ils sont juste déconseillés, mais on peut continuer à les utiliser, et les produits hors sol, notamment d'animaux, je pense aux porcs sur Caillebotti et autres, sont toujours encouragés et conseillés. Alors, donc pour moi, tout ça, c'est
de l'arnaque.
C'est de l'arnaque pour moi.
Christiane Lambert.
Il y a différents stades d'évolution et d'adaptation des exploitations agricoles. L'agriculture biologique en France représente 8,5% des sols. Elle est en augmentation. Bon, malheureusement, les consommateurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui,
vu les prix.
25%, vous dites vu les prix. Oui, madame, parce que le pouvoir d'achat des Français n'est pas le même pour tout le monde. Je ne connais pas votre pouvoir d'achat, je connais le mien.
C'est pour ça que je
n'ai pas élevé mes enfants en mangeant bio tous les jours, hein, parce que malheureusement, quand c'est 30% plus cher dans un foyer, ce n'est pas toujours possible. Donc il faut de l'agriculture biologique, il faut des produits sous signe de qualité, qui sont déjà des progrès. Des certifications environnementales, il en existe de plusieurs ordres. Elles sont vérifiées par des certifications officielles, ministère de l'Agriculture, donc elles sont sérieuses et elles méritent d'être reconnues. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir que cette évolution de la consommation, manger de la viande, mangez-en moins, mangez-en mieux, c'est aussi ce que nous essayons de promouvoir. C'est le leitmotiv d'Interbev, l'interprofession des viandes. Et l'agriculture a fait une vraie révolution qualitative, c'est assez peu connu. Et parce qu'on est français, on part toujours du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide, plutôt que du verre à moitié plein. Bien sûr, nous avons encore des efforts à faire, comme tout secteur, comme l'automobile, comme l'immobilier. Quel est le pourcentage de logements aujourd'hui ? Zéro émission, très peu. En agriculture, on a 8,5% de bio, on a 25% de produits sous signe officiel de qualité, on a 40% d'agriculteurs qui sont engagés dans des démarches agroécologiques, source ministère de l'Agriculture, donc on est en progrès. Alors, Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console, disait un responsable. Quand je vois ce qui se passe à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, franchement...
La France est meilleure élève.
Alors, un mot quand même.
C'est sûr que sur le porc, il vaut mieux ressembler aux Polonais.
Le GIEC qui dit...
Là, il y a un élevage de porc qui vient d'être pointé par L214 sur la
coupe. Je finis de répondre. Le GIEC dit aussi que 25% de l'alimentation est jetée.
Bien sûr.
Gaspillée.
Ah oui.
Les Français jettent 29 kilos par an. Ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose que je ne conçois même pas. Comment?
Donc là, c'est la responsabilité du consommateur.
Exactement.
Pas de l'agriculteur.
Toute la responsabilité. Et nous avons signé le pacte de réduction du gaspillage avec le ministère de l'Agriculture. Et avec notre association caritative qui s'appelle Solal, nous donnons à 29 organisations, premiers donateurs, 8 millions de repas par an grâce aux produits tournés par les agriculteurs. Notamment des fruits et des légumes, c'est bon pour la
santé. Justement, on va voir une rentrée à la hausse, là, avec le prix du blé, des pâtes, ouais. Et des fruits et légumes aussi.
On va passer sur le cas des L214 et des...
Si on a le temps, on va y revenir. Ouais.
Alors, sur les pâtes, ça fait le buzz, effectivement. Le climat fait que sécheresse et canicule au Canada, premier producteur, 2/3 du blé dur est fait au Canada.
Blé
bon tour mondial. Ils perdent 32%. En Europe, nous perdons aussi, mais en raison de la pluie et du froid. Donc, il y a moins de blé dur disponible, ce qui est rare et cher. On l'a tous appris dans les cours d'économie à l'école. Donc, effectivement, ça va être plus cher. De combien ? Point d'interrogation. Alors, parce que je savais que la question allait venir, j'ai fait les calculs. Et ce qu'on peut retirer de cette réalité-là, c'est qu'en fait, pour un Français qui mange 9 kilos de pâtes par an, si le blé dur augmente de 2%, de 5%, ça va représenter 2 centimes par kilo de pâtes. Donc on est sur des niveaux de hausse qui sont quand même pas très élevés. 2 centimes, on en mange 9 kilos, 18 centimes.
Les immigrés italiens, comme moi, vous y
pardon.
Pensez
Alors, on importe beaucoup de blé italien. On importe beaucoup de blé d'Italie et d'Espagne. La France a connu des rendements corrects cette année. Ils étaient en sécheresse l'année dernière. Ça pose aussi la question de l'irrigation, sur laquelle on pourrait débattre aussi. Avec un climat qui va changer, on a besoin aussi de dispositifs de prévention. En tout cas, une réalité... Dans le rapport du GIEC, quelle est la première conséquence que cite le GIEC, et c'est normal parce qu'il s'attache aussi à la stabilité de l'humanité, c'est le risque de rupture des chaînes alimentaires. Des pays aujourd'hui connaissent la faim. Pas nous,
Dieu merci. Non, ça nous, non, ça.
Il y a des alternatives.
Nous, on connaît le gaspillage. Attention.
Madagascar.
Une question, Elina Dumont, il nous reste 2 minutes.
Très vite. Alors, qu'est-ce que vous faites à votre niveau contre l'élevage intensif? Et par exemple les 1000 vaches, les 1000 poulets, enfin vous voyez ce que je veux dire.
L'effort.
Et j'ai un autre truc à vous poser comme question. Personnellement, moi je fais du circuit court et je mange les légumes et les fruits en fonction des saisons. Je vais pas manger des fraises au mois de décembre. Et malgré tout, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si cher. Par exemple, moi dans mon quartier, ça vient vraiment de Seine-et-Marne. Quand je vois le prix du kilo de pommes de terre, je me dis mais attendez.
Alors Christiane Lambert, réponse. Rapide,
Famille Rurale a fait une étude très intéressante, comme elle le fait chaque été, qui montre que pour manger les fruits et légumes, selon l'endroit où on achète ces fruits et ces légumes, selon le type de produit qu'on
et selon la saison
choisi,
pour manger.
Et selon la saison, oui, mais ça va de 9% du budget à 20% du budget. Ça dépend d'où on l'achète, etc. Mais par contre, félicitations pour manger des fruits et des légumes de saison. C'est vraiment ceux qu'il faut inciter. Il n'y a rien de pire pour le bilan carbone que d'acheter des fruits hors saison. Pour le sujet du bien-être animal et de l'élevage, nous avons besoin de produire en quantité, ça ne veut pas dire qu'il faut mal élever les animaux. Aujourd'hui, le bien-être en élevage et la bien-traitance des animaux fait partie intégrante des règles d'élevage. Les vétérinaires, les techniciens conseillent les agriculteurs. Nous modernisons nos bâtiments pour intégrer du bien-être animal. Ça ne se fait pas en claquant les doigts, ce sont des investissements. Et là aussi, quand un bâtiment coûte plus cher, il faut qu'on puisse...
Ah, mais vous êtes contre les 1000 vaches ?
Oui, nous n'avons pas été favorables à ce projet aussi... parce qu'il n'était pas porté essentiellement par des agriculteurs. Mais attention, c'est 1000 vaches en France, c'est 40 000 vaches en Chine et c'est 6 000 vaches en Pologne.
Christiane Lambert.
Et on importe des produits de ces régions-là.
Dernière question. L214 a révélé un élevage de porcs avec la coupe des queues à vif des porcs, le claquage des porcelets.
Ça, c'est pas des techniques qu'il faut soutenir, évidemment. Moi, je suis pas favorable à ces techniques-là. Au 1er janvier 2022, la castration des porcs devra se faire avec gestion de la douleur. C'est nécessaire. On peut pas pratiquer comme on pratiquait il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, l'approche a évolué par rapport au bien-être animal. Nous en sommes conscients et les techniques changent dans les fermes. Il y a aujourd'hui plus de 450 formations faites aux agriculteurs.
Et dans les élevages?
eh bien, il faut qu'ils arrêtent de le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons...
Quelles sont ces sanctions?
Alors,
les abattoirs,
il y a des sanctions, oui, madame. Mais d'abord, il y a un travail de formation, d'accompagnement pour dire, attention, on peut faire autrement. Et voilà comment il faut
faire. Vous ne fermez pas les yeux.
La formation,
absolument
ça fait
pas.
Des années que ça dure.
Merci Christiane Lambert, merci d'avoir été avec nous.